J'ai 90 ans, voilà.
Et vous êtes né, du coup, Santa Maria, c'est pas d'origine française?
Non, c'est d'origine espagnole.
D'accord.
Donc mes grands-parents étaient d'Alicante et de Valence, l'un et l'autre. Et donc toute la famille est partie au moment de la guerre, bien sûr.
La guerre civile espagnole.
Voilà. Donc pour fuir la guerre et fuir la misère et voilà, plein d'autres problèmes aussi là-bas. Et ils se sont installés en Algérie où on leur offrait une parcelle de terrain. Donc ben voilà, ils se sont mis au travail. Des odeurs merveilleuses parce que le soleil, lorsqu'il... Vraiment, quand il illumine toutes les fleurs qui sentent très très bon, comme le jasmin, et des odeurs très fortes, c'est enivrante un peu. C'était extraordinaire les odeurs, ça c'est vrai. Surtout le matin et le soir.
Aussi.
Ah, les couleurs, c'était vraiment... La terre était un peu rouge chez nous, un peu. Et puis, il y avait des pluies torrentielles à partir d'octobre. Dans les pays chauds, c'est toujours comme ça. Et puis, mais sans quoi, ben notre vie là-bas, c'était la mer. Voilà, nos vacances, c'était au bord de la mer, et puis c'est tout. Voilà.
Vous étiez mélangé à la population locale ou vous restiez entre Français?
Alors, généralement,
enfin, entre
on
Français,
reste...
entre Espagnols, pour le coup.
Voilà, non, même pas. Non, c'était entre Français, enfin, des personnes qui parlaient au moins le français. Il y avait des Italiens, des Siciliens, des Maltais, il y avait de tout. Hein. C'était pas uniquement des gens d'Espagne. Hein.
Mais est-ce que vous parliez...
espagnol?
Vous parliez espagnol à
non,
ce moment-là?
Pas du
ah,
tout.
Non, pas du tout.
Nos parents exigeaient qu'on parle français. Comme on était en France, enfin, l'Algérie, c'était la France. Donc, mais nos parents exigeaient qu'on parle bien français. Parce qu'eux-mêmes avaient appris le français par ma grand-mère qui avait été naturalisée française, parce qu'elle était arrivée quand même plus tôt.
En quelle année, en fait, votre...
1897, oui.
OK.
Et puis, mon grand-père est resté espagnol. Il ne parlait pas un mot de français, lui. Et ça ne l'a pas empêché de travailler, et puis d'avoir une entreprise bois et charbon. Et à l'époque, les Arabes avaient beaucoup de faisaient de la cuisine sur des petits canouns, c'est des petits récipients elles mettaient du charbon dedans, puis voilà, c'était leur fourneau en fait. Il y avait des marais qu'il fallait assécher, il y avait des routes à faire, des hôpitaux, enfin il y avait tout ça. L'école, c'était comme toutes les écoles, hein. Il n'y avait rien de différent par rapport au... C'était un département français quand même.
Oui.
Il y avait l'Algérie, le Constantinois et l'Oranie. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même des gros départements. En plus, c'était des pays beaucoup plus grands, hein, bien sûr, que la France.
Et vous connaissiez pas la France, vous connaissiez pas la métropole?
Non, pas du tout.
Alors comment
pour nous,
pouvez-vous
c'était...
dire que c'était comme...
Voilà, c'était la mère patrie, alors... On était vraiment plein d'amour pour la France, parce que toutes les fêtes nationales, on les faisait avec drapeau au balcon, et puis voilà, on était très... Pour nous, c'était le rêve un peu, quoi. Oui, j'avais un frère qui était prêtre en Algérie. Il venait d'être nommé depuis un an, et il a été enlevé par le FLN. On n'a jamais retrouvé son corps... On n'a jamais su ce qu'il était devenu. On sait qu'il est mort, bien sûr, parce qu'on avait découvert des charniers. Ouais. Et dans les charniers, il portait la soutane à l'époque. Alors, ben voilà, il y avait des soutanes, il y avait... Ouais. Voilà. Mais on n'a jamais su ce qu'il était... On sait qu'il a été tué. On a toujours espéré qu'il n'ait pas trop souffert, quand même, mais... On n'a jamais su et on n'a jamais pu faire... enfin, je pense qu'on ne fait pas le deuil de ce qu'on aime, hein, jamais, parce qu'on y pense tout le temps.
Oui.
Ben alors là, c'est vrai qu'à l'époque, ils faisaient des abris. Alors nous, en face de notre immeuble, on avait la forêt du prince d'Annam. Il était en résidence surveillée, le prince d'Annam. Et donc, il avait une belle propriété qui était juste en face de chez nous. Et c'était vraiment une colline de tuf. Et là, ils avaient fait des abris. C'était des tranchées qu'ils faisaient. Et puis, quand il y avait des alertes, quand la sirène commençait a sonné, on descendait tous des immeubles et on allait se réfugier dans cette, justement dans cette tranchée. Et c'est vrai que quand on y pense, on sait que si une bombe était tombée dessus, on était étouffé, hein, complètement. Oui. Parce que le tuf en plus, bon, bien sûr. Mais alors par contre, cette colline dominait la baie d'Alger. Et la baie d'Alger, c'était merveilleux, hein. Surtout en clair de lune, la lune qui se reflétait dans la mer, c'était merveilleux. Mais alors là, on voyait les balles traçantes. Et les balles traçantes, c'était comme des petites fusées pour nous, hein. Parce qu'on voyait la lumière des balles traçantes. Et il nous semblait que c'était comme si c'était un feu d'artifice. En tant que gamin, on ne faisait pas trop attention.
Vous aviez peur ? Vous aviez conscience ?
À l'époque, on avait peur parce que malgré tout, on entendait le bruit des avions. Quand les avions commençaient à descendre, on entend le bruit de l'avion qui va descendre. On se disait, ça y est, c'est pour nous, quoi. Et donc là, on avait peur quand même. Mais en tant qu'enfant, bon, on prenait la peur de nos parents, en fait, parce qu'on ne réalisait pas réellement la gravité de la situation. On ne l'avait pas en nous, hein, ça c'est clair. Et puis les bombes qui tombaient quand même. Alors, pas loin de chez nous, il y avait eu une bombe. C'est un fracas épouvantable, hein, bien sûr. Hein. Et là, il y avait une institutrice qu'on avait perdue, puisqu'elle était dans cette maison. Et alors, les gens racontaient que comme elle faisait des signaux, les gens faisaient des signaux aux avions, bien sûr, allemands, quoi. Alors, ben, malheureusement, une bombe est tombée dessus. Enfin, bref. Oui, c'est ce qu'on disait à l'époque. Hein. C'était l'histoire. Voilà. Autrement, l'inconvénient qu'il y a eu à un moment, c'est quand les Américains ont débarqué en Algérie. Et donc, bon, là, il y a eu vraiment un échange de tirs de tous les côtés. Alors là, il fallait rester prudemment dans les immeubles et ne pas rester près des balcons et tout ça, où on risquait d'avoir des balles perdues. Mais l'inconvénient qu'il y a eu à cette époque, c'est que les Américains ont occupé toutes les écoles pour se loger. Voilà. Coup, alors donc, il n'y avait plus d'école du tout, quoi.
De la libération.
Alors, pour nous, l'arrivée des Américains, en tant qu'enfants, bien sûr, c'était les chewing-gums, le chocolat qu'ils nous donnaient. Parce que ils étaient quand même gentils avec les enfants. Ça devait leur rappeler aussi leurs enfants, peut-être, ou d'autres enfants chez eux. Et donc, ils étaient très gentils avec les enfants. Je sais que pour Noël, par exemple, on a eu plein de bonbons et des choses comme ça qui ont été donnés à mon père pour nous, parce qu'on n'avait plus rien, hein, pendant la guerre, on ne trouvait plus rien. Et nous, pendant la guerre, malheureusement, nous manquions de lait, notamment, parce qu'il y a pas de, il y avait surtout des moutons, hein, voilà, il n'y avait pas de pâturage comme il y a en Bretagne, hein, bien sûr. Et on a manqué quand même de beaucoup de choses, malgré tout. Bon, de viande, tout ça, non, parce qu'il y avait des moutons, alors les bouchers, ben, on mangeait du mouton et on était bien contents. Mais on a manqué de légumes, notamment des pommes de terre. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on manquait de pommes de terre, je n'en sais rien. Mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Mais je sais que les rares cultivateurs, je sais que mes grands-parents, par exemple, dans leur jardin, ben, ils avaient planté des pommes de terre, bien sûr. Alors ils pouvaient nous en passer un peu, mais c'est pas l'ingrédient qu'on avait. On avait surtout des poivrons, des tomates, vous voyez, des choses qui poussent facilement en Algérie et qui malheureusement ne constituent pas l'essentiel de la nourriture, la base primordiale. Alors je pense qu'on a le café, par exemple, et bien c'était du café noir qu'on avait le matin. On n'avait pas de sucre, alors donc c'était du miel de Guinée qu'on avait. Il y avait des tonneaux de miel de Guinée et on allait chercher pour sucrer notre café, parce que bon, ben, on n'avait pas autre chose. Ça, c'était embêtant. Et les gens avaient droit à un demi-litre de lait quand il y avait des malades. Alors, il fallait faire des queues, pas possible. Et moi, je me rappelle, c'est moi qui faisais les courses. Mon père m'envoyait faire les courses, il travaillait, lui. Et donc, malheureusement, c'est vrai qu'à un moment donné, dans les écoles. Alors là, j'allais au collège à Alger. Donc, je descendais d'Elbiar jusqu'à Alger. Et puis là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est passé au collège où j'étais et qui disait que les postes recrutés auraient des élèves, quoi, si on voulait aller. Et moi, j'ai bondi là-dessus. Je n'ai rien dit à mon père, parce que mon père voulait absolument que j'aille à l'école, et puis c'est tout, quoi. Enfin, c'était au collège à ce moment-là. Et donc, je suis partie, je me suis dit, quand je vais toucher mon salaire, ben, je vais lui donner, comme ça, ça va être formidable et tout, il va être content. Mon père, je sais qu'il en a pleuré, parce qu'il aurait voulu que je continue. Et moi, je lui ai dit que j'en peux plus, là. C'est terrible d'être obligé de copier toutes ces leçons sur papier comme ça. J'ai pas assez de temps pour moi. Parce qu'en plus, je faisais les courses de la maison. Voilà, ma soeur était trop jeune et mon frère, lui, il voulait pas faire les courses. Alors bon, ça va. Donc c'était moi la sacrifiée. Non, c'était pas sacrifiée.
Il a réagi comment la première fois que vous avez donné votre
sang ? Voilà. Alors là, je ne peux pas dire ce qu'il en a pensé, j'en sais rien. Parce qu'on n'avait pas ces moyens de communication comme on peut avoir maintenant. On ne savait pas dire à mon père « je t'aime » ou n'importe. Ça, c'était des paroles qu'on ne prononçait pas. On était assez pudiques hein, quand même. On a perdu 2 ans
avec
par rapport...
Guerre.
Ah oui, forcément. Donc je devais avoir...
17, quoi.
17, oui, c'est ça. Je pense que c'était 17 ans.
À ce moment-là, vous êtes à Alger. Et est-ce que disiez que vous alliez faire votre vie en Algérie à ce moment-là?
Ben, on ne se posait même pas la question. Pour nous, c'était... On était chez nous. On n'a jamais imaginé qu'on pouvait aller en France, habiter.
Ou même en Espagne.
En Espagne encore moins. Ben, parce que les parents ayant eu déjà l'image de la guerre et de la misère et tout ça, n'ont jamais voulu retourner. Hein. Je pense qu'ils sont comme nous. Ils ont aimé leur pays malgré tout dans les temps heureux. Mais à un moment donné, ben voilà, il était temps de partir, quoi. Sans quoi, c'était où la famille y passait ou quoi, ça c'est clair.
Et comment, parce que vous dites, comment vous avez été recruté dans votre premier travail là? C'est vous, on cherchait du monde, vous avez tapé
voilà.
À la porte, vous êtes rentré.
Exactement,
c'était parti,
oui. Et puis c'est marrant parce que je me rappelle que le responsable de ce service-là, au chèque postaux, donc connaissait ma grand-mère. Et donc, il avait dû lui en parler. Et donc, comme il connaissait ma grand-mère, bon, ça va, ben, pour moi, il m'a accepté comme ça. Il ne m'a pas demandé des papiers.
Pas de CV, pas de lettre de motivation.
Rien. Il m'a, voilà, j'ai dit, bon, j'ai donné tous les renseignements qu'il me demandait au sujet de mes parents et tout. Et puis, c'est tout, ça s'arrêtait là.
Et comment ça se passe
J'ai connu mon mari, mon mari de toujours après, quoi. Donc en préfecture. Ben oui, parce qu'il y avait des hommes et des femmes, et puis bon, ben ça va. Il avait 14 ans de plus que moi. Et pour moi, ça a été... Ben, il était beau aussi. Et puis, non, c'est pas ça, mais il était extrêmement protecteur. Et c'est ce qui me convenait, finalement. J'ai toujours recherché la protection de... comme celle de mon père, en fait. Mon père était très protecteur. Et ça a été, c'était un homme merveilleux, je vous disais. Il a été merveilleux toute ma vie, véritablement.
Parce que bah, là, on n'est pas loin de...
Parce que là la guerre d'Algérie a commencé ou...
Oui, ouais. Oui, oui.
Quand vous étiez en préfecture, vous, la guerre
d'Algérie... Ah oui, carrément la guerre, carrément la guerre. Et si bien, c'était horrible, cette chose-là, parce que... Instinctivement, même nos collègues que nous avions qui étaient arabes, quand il y avait quelqu'un qui avait été tué, bien sûr, on se regardait en chien de faïence, quoi. C'était plus pareil, quoi. Finalement, on s'en voulait les uns et les autres. C'était une horreur, ça. Dans les services où nous étions, où il y avait des camarades, les Arabes, c'était pareil, hein, et voilà, ils avaient la même chose, parce que autant chez eux que chez nous, il y avait des morts aussi, et puis voilà, hein, parce que l'armée était là. L'armée a fait beaucoup de tort quand même, je pense.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que forcément, elle combattait les Arabes, forcément. Et donc, ben là...
Elle ne faisait pas de distinction, quoi.
Non, voilà, c'est ça qui est terrible. Enfin bon, ça c'est autre chose et je ne peux pas me permettre de juger quoi que ce soit là-dessus. La guerre, c'est la guerre.
Quand même, t'es témoin de...
Dans les grandes villes, ça se voyait moins. C'est surtout dans les douars ou enfin des choses comme ça où il y a eu beaucoup de De bord, de, voilà, il y a eu des tortures, il y a eu tout ça, mais des deux côtés. Hein, voilà, bon.
Et comment vous avez perçu le discours du général de Gaulle, je vous ai compris.
Oui, mais, ben oui. Ben, malheureusement. Vous savez, ben, moi j'étais dans la... On ne me voit pas, mais dans la troupe qui était devant le gouvernement général, puisqu'il était là, et qu'il a prononcé ce fameux discours.
Vous étiez là le jour ?
Ah oui, 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 oui. Ben oui, il y a une grande esplanade, tout le monde allait, hein, alors on était là au milieu. C'était étouffant d'ailleurs, cette foule, c'est quand même... C'est impressionnant quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu des hurlements quand il a dit « je vous ai compris » et tout ça. Tout le monde jubilé, on savait qu'on allait pouvoir rester. Et puis voilà. Même il y a eu...
Vous pensiez que vous alliez pouvoir rester.
Je vous assure que vraiment, on criait de joie. Et puis finalement, les Arabes sont venus au milieu avec nous, quoi. À ce moment-là, je crois que ça a été la grande réconciliation. En même temps, ça a été cette grande réconciliation d'Arabes avec nous.
C'est étonnant d'un quiproquo, parce qu'on peut parler de quiproquo quand même.
Bien sûr, bien sûr.
D'un qui est, et pourquoi, du coup, les Arabes, enfin, certains Arabes, voulaient que l'Algérie reste française ?
Oui, à l'époque, oui, sûrement. Parce que, vraiment, on pensait pas du tout à l'indépendance, là. On n'y pensait même pas, nous. On savait que l'Algérie... pour nous, c'était surtout que la guerre allait se terminer. C'est tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Que la guerre allait finir. Voilà. C'était la seule chose qui nous rendait plein de joie et qui faisait cette réconciliation, c'est que la guerre allait se terminer d'un côté et de l'autre, hein, bien sûr. Quand, parce que la guerre, c'est ça. Bon, on ne voulait pas arriver à l'indépendance. On se disait, le jour de l'indépendance, on va se faire tuer, certainement, puisque De Gaulle avait refusé que l'armée intervienne à partir du moment où il y a eu les accords d'Évian, en mars. Donc depuis mars jusqu'au moment de l'indépendance, c'est-à-dire le 1er juillet, c'est là où il y a eu les plus grands massacres. Alger, la fusillade de la rue d'Isly et tout ça, c'est à Oran, le massacre qu'il y avait eu aussi, hein, parmi la population française, c'était une horreur, quoi. Voilà. Alors, c'est ça qui nous a fait fuir, hein, parce qu'on s'est dit, on va se faire massacrer, puis c'est tout, quoi. Alors, c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait partir. Et par contre, ben, tout de suite, on nous a obligés à ne prendre que deux valises. Et deux valises, c'est sérieux. Vous avez une maison à l'heure actuelle ou un appartement. Moi, j'avais un appartement à l'époque qu'on avait acheté. Enfin, on avait versé des sommes, parce qu'à l'époque, il fallait verser quand même une bonne partie. Je crois que c'était 10%, un truc comme ça. Et après, la banque nous faisait, bien sûr, des crédits pour pouvoir payer l'appartement, le reste. Et donc, il fallait, avec tout ce que vous avez dans votre appartement, ben vous ne partez qu'avec deux valises. Mais nous, en disant, on part avec deux valises, d'accord, mais on va certainement revenir pour rechercher le reste. Alors ça fait qu'on n'a pas pris... Moi, ce que je regrette beaucoup de ne pas avoir emporté, ce sont les photos. Parce que toute l'enfance où on a eu l'occasion d'avoir des photos, tout ça a disparu, forcément. Je n'ai plus...
Vous n'avez jamais pu revenir.
Et non, non, non.
Vous n'êtes jamais revenu.
Non, 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 jamais. Mon mari était dans la police... Donc, on savait que malgré tout, ils étaient fichés. Tout ce qui était défense, vous savez. Voilà. Alors, on s'est dit, dommage.
Vous savez ce qui est devenu votre...
Oui. On se serait fait descendre.
Hein. Non, mais vous savez ce qui est devenu votre appart, vos affaires, tout ça? Non, rien du tout. Non. Vous avez gardé des amis là-bas,
Non. Non, 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 non. Et non, parce que, déjà, moi, j'avais de très bonnes copines, mais elles se sont certainement mariées. Et donc, dans les noms que je peux chercher par Internet, j'ai cherché, hein, bien sûr, mais je n'avais que leur nom de jeune fille, alors je n'ai jamais pu retrouver des copines, toutes les amies que j'avais, quoi.
Pas du tout.
On n'est pas partis en même temps, parce que mon père est parti avant. Il est parti avant parce que l'EDF s'est échangé. L'EDF a été formidable. Ça, il faut dire que mon père a été vraiment... Alors, l'inconvénient, c'est que on nous avait donné des villes à choisir pour partir en France, mais dans une région, quoi. Et moi, j'avais choisi d'abord Annecy, parce que Annecy me plaisait beaucoup. Je me disais, j'aimerais vraiment travailler dans cette ville et tout. Annecy, et alors après, j'avais pris Pau, parce que mon mari, sa mère avait fait des cures pas loin, et puis donc Pau leur avait plu, hein. Et Rennes en dernier, parce que ma sœur y était. Elle avait épousé un militaire, leur aîné. Et puis, donc, elle était partie à Rennes. Alors, j'ai dit, bon, en dernier ressort, autant que je sois avec elle. Mais Rennes, pour moi, c'était le bout du monde. Hein. La Bretagne, c'était le bout du monde. C'était les femmes qui reprisaient les filets, qui pleuraient parce que les marins étaient en mer et tout. Voilà, c'était ça pour moi. Ou alors les beaux pommiers, les cartes postales, c'était des pommiers avec des vaches qui étaient dessous et tout ça. Pour nous, c'était bon, c'était merveilleux, parce que l'herbe et tout ça, on n'avait pas tellement. Hein. Nous, c'était sec comme tout. Et donc, j'avais choisi Rennes. Vous pensez bien que là-bas, au ministère, se sont dit Elverennes, très bien, parce qu'on voulait refouler les gens vers le nord, l'ouest, l'est, pour partir, ne pas rester dans... Parce que tout le monde serait resté dans le sud, hein, évidemment. Hein. Le seul inconvénient, c'est que dans le travail, on a été très mal accueillis, quoi.
À Rennes ?
Ah oui.
Ah, ouais.
Ah oui, ben, comme partout. Parce que ce soit à Marseille ou ailleurs, les gens nous voyaient comme des gens riches, tu vois. Et comme tous les loyers avaient augmenté tout de suite, la vie a augmenté quand il y a eu tout ce rapatriement... En se disant ils sont pleins d'argent, comme ça ils vont payer et tout. Et ben les gens qui vivaient, ben, ils voyaient ça d'un sale œil. Je suppose que ça devait être pour ça. Mais les gens ne nous aimaient pas du tout, hein, ça c'était clair. Oui, ils se croient supérieurs à nous. Voilà. Parce que c'est vrai que malgré tout, on était quand même un peu plus moderne que... Je me suis aperçu de ça. Moi, à l'époque, en préfecture, j'utilisais une machine électrocomptable déjà. Et ici, je faisais tout à la main encore. Ils mettaient des carbones dans les grands bordereaux et tout ça. Et nous, on avait des imprimés avec les carbones. On n'avait pas besoin de mettre les carbones et tout. Et puis, on passait ça dans les machines. En même temps que notre grand bordereau passait dans la machine, on mettait un mandat et un virement. Parce qu'on avait notre comptable signataire, était le TPG, hein, bien sûr. Et donc, on avait tous ces documents qu'on mettait, puis c'est tout, quoi. Et on calculait sur la machine, c'était à nous de faire... On avait des espèces de petits taquets qu'il fallait mettre, qui avaient des fonctions, chaque petit taquet. Alors, un plus, un moins, un total, voilà, une multiplication. C'était à nous de faire toutes ces petites choses-là. C'était les fameuses machines électrocomptables qu'on mettait sur des réglettes et qu'on adaptait à la machine et on faisait notre boulot. Et ça allait de plus en plus vite, en fait, parce que c'est vrai qu'en peu de temps, on a connu quand même plein de modifications. Et c'est ce que j'explique à mes petits-enfants. Je leur dis, si vous avez maintenant ça, c'est grâce à nous qui avons progressé au fur et à mesure. Et au-delà de ce qu'on a eu en finale, ben on en est arrivé là, quoi. Le service, j'étais chef de bureau, service des cartes grises. Et il y avait 29 personnes qui travaillaient avec moi. Et j'avais des techniciennes formidables. On était une équipe formidable. Et puis, moi, j'étais conciliante aussi pour certaines choses. Par exemple, le matin, dans le bureau, dans le grand bureau qui était derrière les guichets, le café, quand c'était la fête de quelqu'un ou l'anniversaire, c'était les petits croissants, la confiture avec le pain, des machins comme ça. Ça, je tolérais. C'est ça, exactement. Bon, et au début, vous n'aviez même pas le droit de manger une pomme. Hein. Une fois, moi, j'en mangeais une, je me suis fait attraper, quoi. Voilà. À une époque, on n'avait pas le droit de faire ces choses-là. D'ailleurs, ça ne nous serait même pas venu à l'idée. Mais par contre, si les gens avaient, par exemple, un anniversaire ou quelque chose, c'était après le travail. Voilà, après le travail, on pouvait rester. Si on buvait un coup avec les collègues, ce n'était pas gênant. Mais sur le lieu du travail, non, jamais.
C'était strict, quoi.
C'était très strict. J'ai besoin des autres pour vivre, moi. Je ne peux pas vivre toute seule dans un coin. Ce n'est pas mon truc. Au contraire, j'aime bien la réunion de... plein de gens, qu'ils soient n'importe... Je me dis toujours que quelqu'un, même si c'est un ronchon ou une ronchonne, les gens ont toujours des qualités. Et c'est ça qui est intéressant à rechercher chez l'autre. Alors la place des femmes, je l'ai toujours connue en fait. J'ai toujours connu plus de femmes que d'hommes au travail. C'est drôle, hein, qu'il y avait plus, en nombre, il y avait plus de femmes, toujours, partout. C'est pour ça que finalement, ça ne m'a jamais choqué, cette chose-là. Non, il n'y avait pas beaucoup de responsables de femmes. Non. On a eu beaucoup plus tard des directeurs, par exemple, femmes. Voilà. Ça a été beaucoup plus tard. Alors voilà, Saint-Médard. Alors Saint-Médard, pour moi, c'est mon fils qui a trouvé la maison où nous sommes, où je suis à l'heure actuelle. Et donc c'est lui qui a investi une partie de ce qu'il voulait acheter, lui. Et puis, et alors par contre, Saint-Médard m'a plu parce que, bon, je travaillais à l'époque. Donc je descendais tous les jours. Je ne voyais pas Saint-Médard comme je l'ai vu après. Parce que c'est quand même, c'est très vallonné et c'est beau, voilà, en plus. Mais le contact n'était pas si facile que ça. Mais quand j'ai arrêté de travailler et que je me suis trouvée à la maison, ben le maire est venu en me disant « Vous ne voulez pas faire partie du conseil municipal ?» Alors je me suis dit, après tout, je ne connais pas ce côté-là. Je connais que l'autre côté. Ben, c'est bien d'apprendre encore quelque chose. J'étais encore dans le truc du travail. Alors j'ai dit oui tout de suite, hein, bien sûr. Mais autrement, Saint-Médard, c'est une ville très agréable. Parce qu'il y a le respect des gens, déjà. Si vous voulez être seul, on ne vous dérange pas. On ne vient pas vous taper à la porte sans arrêt. Les gens sont assez pudiques. Ils ne dérangent pas. C'est ce que j'ai, en tout cas, trouvé chez... Ici, voilà. Okay. C'est tout. J'étais bavarde, non?
Non, c'était super. Merci beaucoup pour cet entretien. J'espère que ça a été pour vous aussi.
Oui.
Et puis,
j'espère que ça. Voilà.
Ça va être très bien.
Bon.